avec Philippe Carnut.
RVE, bonne matinée. Il est 11h.
Le point sur l'actualité nationale et internationale.
Loi antiterroriste, industrie et vegan, voilà ce dont on a parlé cette semaine, avec plusieurs articles de la nouvelle loi antiterroriste qui ont été votés cette semaine par les députés. Facilitation des perquisitions à domicile, élargissement des contrôles d'identité à proximité des aéroports, 20 km à la ronde. Des dispositions dont l'ONU s'inquiète, la normalisation par ce projet de loi des pouvoirs d'urgence menace gravement l'intégrité de la protection des droits en France, selon le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Et pourtant, les Français, eux, sont prêts à rendre leur liberté pour vivre en sécurité. Baromètre Odoxa, 57% des Français se déclarent favorables au projet de loi antiterroriste et qui fait devenir donc ordinaire les mesures extraordinaires de l'état d'urgence. 62% des sondés estiment que le texte aura tendance, en effet, à détériorer leur liberté, mais 85% jugent qu'il améliorera leur sécurité. Notez qu'on a aussi eu une première cette semaine en la matière en France, qui fera sans doute jurisprudence. Une mère a été condamnée à 2 ans de prison pour financement du terrorisme. Son fils était parti faire le djihad en Syrie et elle avait aidé financièrement son fils parti là-bas. La France qui se défait, ou plutôt l'État qui nous dépouille de nos bijoux de famille, le TGV passe le Rhin et les chantiers navals de Saint-Nazaire passent les Alpes. Voilà qu'on vend nos fleurons industriels. Le TGV est passé sous pavillon allemand. Alstom et Siemens ont annoncé leur mariage pour constituer le numéro 2 mondial des matériels roulants et des domaines de signalisation, domaine très rentable. Alors on a sauvé les apparences, le groupe allemand détiendra effectivement la majorité du capital, mais il faudra un vote des 2/3 du conseil pour certaines décisions stratégiques. Le siège sera en France, la cotation sera en France, le dirigeant sera français, les apparences sont sauves. Même chose pour le chantier naval de l'Atlantique, STX, c'est l'italien Fincantieri qui obtient la majorité, 50%, plus 1% prêté par l'État avec un droit de retour pendant 12 ans si l'italien ne respecte pas ses engagements. Et c'est sans rappeler la longue liste des industries déjà passées sous pavillon étranger, Alstom Energy vendu à l'américain General Electric, Alcatel-Lucent vendu à Nokia, Peugeot Citroën vendu à Dongfeng, chinois. La famille Peugeot n'est plus majoritaire. Mais cessez donc de manger de la viande, puisqu'on vous le dit, pauvre bête, dans la nuit de mardi à mercredi, les amis des animaux qui n'en mangent pas, les véganes, ont organisé une nuit debout devant un abattoir dans chaque département français. Derrière cette action médiatique, l'association Vegan 269 Life, qui milite pour arrêter l'élevage des animaux, car il faut arrêter de manger, d'exploiter les animaux. Notez que l'automobiliste, lui, est toujours vache à lait. Et là, pas d'association vegan pour le défendre. Le diesel coûtera plus cher dès l'année prochaine, 7,6 centimes le litre. Le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, a confirmé cette semaine une hausse de 10% des taxes sur le diesel l'année prochaine. À propos de carburant et de circulation, notez qu'on a ce risque de blocage total des routes de France avec la colère des routiers, mais pas de panique pour l'instant, rien n'est fait, pas de blocage de circulation, pas de dépôt de carburant bloqué tant que la CFDT ne passe pas à l'action, puisque c'est le syndicat majoritaire des chauffeurs routiers et seulement lui peut envisager de bloquer le pays. D'ailleurs, la concertation va reprendre avec le gouvernement sur le sujet. Voilà pour cette rétrospective, merci de nous avoir choisi, passez un excellent week-end avec nous.
Bonjour à tous, alors la météo pour votre dimanche, c'est une journée sous la pluie qui s'annonce avec des températures qui vont atteindre la maximale de 15 degrés cet après-midi. Donc sortez couverts et avec un parapluie, bonne journée à tous et voici votre émission Moins de bruit les filles, la rediff de lundi dernier.
RVE, la rediff.
Débat, rire, idée, moins de bruit les filles, c'est chaque lundi 19h-20h sur RVE.
Oui, bonsoir chers auditeurs, bonsoir Jérôme,
bonsoir Chantal,
ceux qui vont arriver, bonsoir Jules qui est aux manettes, et nous allons ce soir décliner une nouvelle émission de Moins de bruit les filles sur une thématique qui va très très bien avec la météo qu'on vient de vous annoncer, parce que là tout d'un coup on va perdre 10 degrés d'ici ce soir, on n'arrête pas, la journée il fait souvent jusqu'à 20-24 degrés, après on perd 10 degrés, après on en reprend, on est un petit peu, comment on dit, dirais-je, déboussolés au niveau du climat. Alors justement, on a décidé d'en faire la thématique de l'émission d'aujourd'hui. Le changement récemment, donc on a une pensée pour eux, pour tous les gens qui sont à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, et c'est qui sont encore toujours dans la galère. Et c'est pas tout à fait près de se terminer, si j'ai bien compris les dernières nouvelles. Alors voilà. Les choses étant ce qu'elles sont, nous, on aimerait bien essayer de voir d'abord si effectivement tout ça est dû au changement climatique, quelles sont les conséquences aujourd'hui et comment lutter. C'est un petit peu ça l'idée. Et puis, on va faire aussi, bien sûr, un billet d'humeur très humoristique, mais très critique, mais très pessimiste de Jérôme. Et puis, on va vous parler aussi de ce qui se passe un petit peu dans la région pour comment. Puisque c'est déjà terminé, je voulais glisser un mot sur le festival Festifoto. Alors, je ne sais pas si tu as été faire un tour à Rambouillet, Jérôme.
Du tout.
Du tout, donc il n'a pas vu les photos des animaux de nos belles régions.
Ah, mais j'ai vu les animaux, en revanche.
Voilà, il a vu les animaux, il n'a pas vu les photos.
Non, j'avais oublié mon appareil.
Ah, c'est ça. Donc, il y avait une dizaine, même peut-être plus d'expositions à la bergerie nationale, dans les très belles cours de la bergerie et les bâtiments annexes, absolument. Mmh. Alors, j'ai vu des photos magnifiques, à la fois de hiboux, de chevreuils, de cerfs.
Tu sais qu'on peut les voir dans la nature aussi.
Oui, c'est ça, mais enfin, c'est plus difficile parce que là, on les voyait en grand, en gros, et puis ils bougeaient pas. Et il y avait des photos absolument magnifiques. Et c'est vrai que d'une expo à l'autre, on découvre d'autres visions. Et alors voilà. Et alors j'ai quand même, je tenais à le dire, j'ai vu deux choses qui m'ont assez impressionnée. Il y a un photographe, donc animalier, qui a fait quelque chose sur les chevreuils. Et alors lui, il est vraiment dans cet univers. C'est-à-dire que le chevreuil, pour lui, c'est pas justement un objet de photographie, c'est un mode de vie. C'est-à-dire que je l'ai entendu dire qu'il vivait comme un chevreuil, qu'il pensait comme un chevreuil. Et c'est vrai qu'à passer de longues heures à traquer l'image, j'imagine qu'on doit se sentir très proche de l'animal.
Est-il victime du changement climatique?
Pas du tout, mais je voulais faire un petit mot sur Festifoto. Et alors justement, il y avait une autre chose dont on va parler plus abondamment la semaine prochaine, dans notre sujet sur la poule.
Mais tu sais que les animaux peuvent être victimes du changement climatique.
Évidemment, mais regarde les ours polaires. Tu crois qu'ils rigolent avec le changement climatique?
Mais les cervidés aussi, parce que finalement, la nature de nos forêts peut changer, donc leur alimentation, etc. Il faut voir à long terme.
Voilà, il faut voir à long terme, et pas que de notre petite lunette, mais voilà. Et donc, on va parler de tout ce changement qui bouleverse les humains, mais aussi les animaux. Et voilà, on va commencer tout de suite.
Et d'animaux, tu étais en train de me parler de poules.
Ben oui, j'ai parlé de poules parce que la semaine prochaine, je vous le redirai à la fin de l'émission pour ceux qui ne sont pas là, et c'est pas bien s'ils ne sont pas déjà à l'écoute. Ah, la semaine prochaine, on va faire une émission sur la poule. Jules, ne me regarde pas comme ça. C'est pas du tout les poules auxquelles tu penses, ce sont les animaux.
On avait déjà une audience très volatile.
Voilà. Et la semaine prochaine, on va faire un spécial poule parce que Jérôme a décidé que c'était le sujet.
Et attention, on va faire appel à un poule de journalistes pour l'occasion.
Oh là là. Et puis alors, franchement, on va pouvoir faire tous les jeux de mots qu'on a envie de faire. Ça va être formidable.
Non, ma cocotte, ce sera pas possible.
Non, ma poule, on dit. Oh là là. Bon, alors, revenons-en à nos moutons, si tu permets. Laissons les poules de côté.
Parce que tu étais à la bergerie nationale.
J'étais à la bergerie nationale. Et j'ai même vu un monsieur, alors ça, je voulais vous le dire avant de parler du changement climatique, qui a créé une association pour venir en aide à tout ce qui est hibou, enfin, et tous les consoeurs.
Ils réclamaient depuis longtemps, d'ailleurs, cette association.
Et alors, ce monsieur, notamment, nous a fait une démonstration de comment construire un abri pour que les hiboux et les chouettes et tout ça puissent faire leur couvée tranquillement. Alors lui, il a fait une maison deux pièces. Ça, j'aimais bien, parce qu'il m'a expliqué que deux pièces, c'est mieux qu'une. Donc, il y a une pièce où elles peuvent faire, ils peuvent faire leur couvée, et l'autre où ils peuvent faire leur vie, je sais pas. Mais il y a deux pièces, si tu veux. Et si tu veux construire ça dans ton jardin, il n'y a aucun problème. Tu vas voir le monsieur, tu lui demandes comment on fait, c'est en contreplaqué, tout ça. Et tu fais ça, mais alors faut mettre
mais
ça dans son grenier.
Il leur demande un loyer ou c'est gratuit?
C'est gratuit, mais le problème c'est qu'il faut ouvrir ton grenier, enfin là, s'il y a une ouverture sur l'extérieur, et laisser les animaux rentrer dans ton grenier.
Ouais, moi je pense que mon grenier est plus petit que la maison dont tu parles.
Ah d'accord, c'est une maison de deux pièces. Et en plus, ce que tu me disais en voiture tout à l'heure et qui m'inquiétait beaucoup, c'est que non seulement moi j'ai découvert ça parce qu'il y a une chouette, une blanche, une grande blanche qui niche pas
c'est
très
beau.
Loin de chez moi, et quand on passe le soir devant la ferme dans laquelle elle niche, t'entends ronfler.
Ah oui.
Elle ronfle.
Ah oui, non, mais c'est impressionnant.
Ça ronfle. Et alors, tu disais que ça parlait comme
moi,
ça.
Je me souviens très bien, ça marchait comme un
individu.
D'un cousin dans ma famille qui s'est retrouvé avec une chouette, enfin, j'entends un animal dans son grenier. Et comme c'était pas la campagne, ni une ni deux, il a pris son fusil pour aller voir qu'elle était une cambrioleur qui se trouvait à l'étage. Et en fait, pas du tout, la chouette se baladait.
Ouais,
mais si tu veux, elle a le pas lourd, la chouette. Donc, ploc, 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 elle marche comme un homme. Donc,
d'accord. Mais c'est-à-dire que les chouettes blanches, par exemple, celles dont je te parle, qu'on peut de temps en temps entreapercevoir, parce qu'en fait, elle est quand même un peu sur le kiff quand elle te voit, hop, elle rentre à l'intérieur de la grange. Mmh. Mais quand tu l'as, elle est grande, quoi.
Elle est très grande, oui.
Une grande taille, quoi.
Ouais. Ça pèse son poids.
C'est
et
impressionnant.
Les pattes, les serres sont assez impressionnantes aussi.
Ouais.
Et d'où ce pas d'homme, parce qu'elle se dandine tranquillement.
D'accord. Donc il faut dire aux chouettes de faire attention, de marcher
oui,
un peu
si
tranquillement.
Si elles pouvaient mettre des petits chaussons dans les greniers, comme ça, on pourrait dormir peinard.
Voilà, parce qu'il faut. Bon, enfin voilà. Tout ça, c'est une digression par rapport à notre sujet de ce soir. Je te signale quand même. Alors, le réchauffement climatique, il faut vraiment s'en préoccuper. On a 10 minutes pour s'en préoccuper, nous dit Jules. Enfin, dans un premier temps, avant une publicité qui ne serait tardée.
Tu te rends compte, Jules, c'est une histoire de millions d'années, le changement climatique.
Ah ben. Absolument. Attends, ça date pas d'hier. Et alors, ce que je voulais vous dire déjà, mais je trouve plus mon papier. Ah si, c'est là. Voilà. Au mois de juin dernier, il y a notre président, respect, Emmanuel Macron, qui disait, il s'était déjà signalé sur ce problème de changement climatique en lançant le slogan, parce que lui, c'est un de nos rares présidents qui parle vraiment anglais. Je ne sais pas si tu l'as entendu, mais il parle anglais. Les autres, baragouinais, mais lui, il parle anglais.
On
avec
peut même
accent.
Le comprendre quand
voilà,
il parle anglais.
En plus, oui. Et alors, il disait, il a lancé un slogan, c'était « Make our planet great again ».
Mais je te comprends aussi.
Ce qui
aussi.
Veut dire, en français, « Rendre sa grandeur à notre planète ». En fait, il détournait par ce propos un slogan de la campagne de Donald Trump, qui, vous le savez tous, n'est pas un ardent défenseur de la planète et de l'écologie et de tout ça. Et lui, il avait fait un slogan de sa campagne, Make America Great Again. Vous voyez, donc Make Planet, Make America, enfin voilà. Donc c'était un petit peu pour se
réduire la planète
voilà.
À l'Amérique ou considérer
voilà.
Que l'Amérique c'est
parce
la planète.
Que, voilà, parce que il avait, enfin Macron en disant ça, Emmanuel Macron, pardon, notre président, disait ça parce qu'il avait condamné la sortie des États-Unis de l'accord de Paris sur le climat qui avait été décidé par Donald Trump. Voilà. Donc est-ce que la première question qui se pose, c'est est-ce que le réchauffement climatique est la cause directe des ouragans? Alors je me suis posé la question, j'ai fait une enquête et j'ai découvert entre autres un article d'un monsieur qui s'appelle Robert Votard, qui est climatologue au CNRS, donc on peut lui faire confiance. Et lui, il dit que c'est pas tout à fait ça. Il tempère cette idée en fait, parce que pour lui, il n'y a aucune certitude sur l'impact du réchauffement sur le nombre d'ouragans. Mais, en revanche, les impacts des cyclones vont augmenter car l'atmosphère va se réchauffer et donc contenir plus d'eau, ça veut dire plus de pluie.
Mais ce qui a été dit au moment l'arrivée des ouragans, c'est qu'ils se nourrissent de la température qui règne à la surface
exactement.
Des océans. Et cette température augmente régulièrement. Et l'une, pour être très sérieux, l'une des dernières découvertes qui a été confirmée par les climatologues, et notamment ceux qui étudient l'élévation de la température des océans, c'est que celle-ci ne s'élève pas seulement en surface, mais également en profondeur. Ça, c'est ce qui a été. Et l'océan est en quelque sorte un calorifère. C'est lui qui capte l'essentiel de la chaleur due au réchauffement climatique. Donc, c'est pour ça qu'il a été dit qu'il y avait un risque aggravé d'ouragans et d'ouragans de force majeure.
Bien sûr.
Même si la conséquence n'est pas directe, mais indirecte.
Ben voilà. Alors, il y a une autre certitude aussi, c'est que, puisque tu parlais de l'océan, c'est que le niveau de la mer augmente avec le réchauffement climatique. Donc, logiquement, quand un cyclone touchera une côte dans le futur, les vagues seront donc encore plus élevées qu'aujourd'hui. Quand on sait qu'elles atteignaient un immeuble déjà à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, on imagine bien ce que ça peut être demain. Enfin, bon.
Et la mer monte parce que la glace fond. C'est-à-dire que, et non seulement les pôles fondent, on a tous en tête l'image de ce pauvre ours sur son glaçon, son mini glaçon qui ne sait plus comment résister au réchauffement climatique, qui se retrouve sur une mini île. Voilà, il ne sait plus comment en faire de tour tellement il est petit son glaçon. Mais il faut savoir aussi que les glaciers de montagne, on a aussi l'image du glacier du Mont Blanc par exemple, qu'on a vu divisé par deux, par trois, sont responsables pour la moitié de l'élévation du niveau des océans. On ne le sait pas toujours, mais l'ensemble des glaciers de montagne sur la planète, ça représente la moitié du niveau de l'élévation des océans.
Ben oui, et de toute façon maintenant, d'une manière générale, on peut même sans aller sur les hauts sommets ou dans l'Antarctique, on peut remarquer que il y a une canicule en été, un hiver sans neige, un dérèglement du climat dont on parlait tout à l'heure en citant la météo, parce que c'est vrai qu'on se dit là attends, il faisait 24 degrés hier, ce matin il faisait 5, c'est pour l'organisme et pour les animaux et pour les végétaux, tout ça c'est un peu troublant quoi. C'est déstabilisant et ça.
Et à bon escient, tu as parlé de dérèglement et non pas de réchauffement, parce que si on peut parler d'un réchauffement global de l'atmosphère dû aux gaz à effet de serre, il convient de parler d'un dérèglement au niveau de la planète. Certaines régions vont se refroidir du fait du réchauffement de l'atmosphère. Tout simplement, par exemple, en dessous des pôles, on sait très bien qu'à certains endroits, des morceaux de banquise se détachent et vont venir refroidir l'eau, changer les courants, suivant les courants.
Tu dis refroidir, toi. Tu dis pas refroidir.
Si tu veux.
Dis refroidir.
Mais ça me refroidit quand tu dis ça, alors je préfère dire refroidir.
D'accord, excuse-moi, vas-y, continue.
Voilà, enfin, un peu, voilà. Baisse le niveau, la température du niveau des océans. Donc, certains changements se traduisent par une baisse de la température, bien que globalement, l'atmosphère se réchauffe, elle.
Ben oui. Alors justement, tout au cours de cette émission, on va trouver les moyens pour lutter un peu à notre niveau, parce que c'est un truc individuel finalement. Trouver les moyens, les mettre en place, et c'est tout à fait faisable.
Et je vous dirai qui sont les vrais responsables du réchauffement de l'atmosphère.
Ah oui, en plus il les connaît et nominément.
Nominément.
Mais tu peux y aller.
Tu dis nominément, toi.
Mais je dis pas refroidir, moi. Bon, alors vas-y, tu peux y aller si tu veux. Non, il veut pas y aller.
On verra ça après la pub.
Il fait non. Alors voilà. Donc, l'objectif de changement climatique n'est pas de tomber dans un catastrophisme alarmiste, mais de faire un point sur cette problématique tout en rappelant que, quelles que soient les conclusions concernant les causes exactes du changement climatique, il faut adopter une attitude différente. Comme par exemple, il faut plutôt installer un panneau, l'installation d'un panneau photovoltaïque ou d'une éolienne ne peut être que positif. Alors moi je déteste les éoliennes, je trouve ça très laid, j'aime pas ça du tout dans mon paysage, mais si on me dit que c'est nécessaire, bon ben on va faire avec, hein. Non, je sais pas.
Mais l'éolienne ne se suffit pas à elle.
Non. Ah ben
c'est
non,
une énergie alternative, donc on a besoin de la suppléer par autre chose, on ne peut pas vivre que d'éoliennes.
Voilà, on peut faire comme dans la pub à la télé, faire du vélo pour faire marcher le courant, tu sais, c'est bien aussi. T'as essayé ça? J'aimais bien. Non, bon, enfin bref. Ben voilà, le principe, c'est qu'il faut faire quelque chose très rapidement.
Ce qui compte, c'est globalement le bilan carbone, puisque le principal gaz à effet de serre, c'est le CO2. De chaque énergie employée. Donc si le bilan carbone du panneau solaire ou de l'éolienne est meilleur que celui du pétrole, il faut pas s'en priver.
D'accord, absolument, il faut pas s'en priver, et il faut pas s'en priver non plus d'aller à la prochaine conférence qui est organisée par le CEARC. Le CERC, c'est le centre. C'est un centre de recherche pour toutes les nouvelles technologies qui fait des conférences depuis 3 ans, pas loin de chez nous, à Saint-Quentin-en-Yvelines, avec des experts qui nous expliquent le climat, comment ça fonctionne. Et la prochaine conférence, qui est dirigée par une anthropologue qui s'appelle Alexandra Lavrillier et un maître et Jean-Michel Huctin qui est enseignant-chercheur au CEARC. Alors, je vais vous dire, le CEARC, j'avais trouvé ce que c'était exactement.
Mais au fait, Chantal, j'ai pas vu beaucoup d'éoliennes dans ton jardin.
Bah c'est parce que t'as pas bien regardé. Je vois que ça comme explication, il y en a plein dans mon jardin. C'est ce que tu prends pour des sapins, ce sont des éoliennes déguisées.
Quand tu te balades en Europe du Nord, au Danemark par exemple, tu vois des éoliennes. Alors le Danemark a fait le choix de l'éolien dans les années 70, mais le citoyen danois peut avoir une éolienne dans son jardin pour subvenir à une partie de ses besoins en électricité.
Et tu projettes de faire ça toi?
Tiens, c'est une bonne idée. Si on mettait une éolienne dans le jardin.
Oui, mais moi je veux pas qu'elle ait un look d'éolienne. Je trouve ça vilain. Je voudrais qu'on me la peigne en vert foncé et que. Enfin, je vous raconterai ça après.
Toi, tu veux l'éolienne, celle qui remontait l'eau pour les vaches.
Oui. Bon, alors maintenant, on va s'arrêter de toute façon parce qu'il est temps d'écouter une pub d'abord, suivie d'une musiquette qui s'appelle Un été sous la pluie. Formidable.
Artisan, peintre, décorateur, Sébastien Mohard, pour vos travaux de décoration, peinture intérieure, traitement des sols, tapisserie, vitrerie et ravalement peinture. Votre artisan peintre décorateur, Sébastien Mohard, c'est plus de 15 ans d'expérience. Devis gratuit et renseignements au 01 34 85 98 14. Artisan peintre décorateur, Sébastien Mohard, 13 bis rue de la Libération, à Sonchamp.
Bienvenue au Savoyard, 46 rue d'Angivillers à Rambouillet. Depuis 30 ans, le restaurant Le Savoyard propose une cuisine traditionnelle française et aussi des spécialités savoyardes. Le tout fait maison. Alors pour un moment convivial entre amis ou en famille, votre restaurant Le Savoyard vous accueille du mardi au samedi soir. Le Savoyard, 46 rue d'Angivillers. Téléphone 01 34 83 35 77.
J'ai plongé dans les cieux de ce bleu océan. J'ai dessiné ton corps dans ses moindres recoins, sans mettre le nez dehors, sans penser à demain. Le temps étant déprimé, nous sommes passionnés. Nos bouches qui s'abîment ne veulent plus s'arrêter. En huis clos mon amour, dans mon appartement, sans voir la nuit, le jour, c'est pas très reposant. Adieu la pluie, le cœur en peine, les nerfs en vrac, c'est déjà fini. J'en reprends pour un an, quotidien solitaire, ma vie en noir et blanc. Inspiration précaire, le temps défile et je n'ai plus de nouvelles du tout. Je dessine sur les murs ce qu'il me reste de nous. Quelques baisers mouillés, à perdre la raison, j'inverse les journées, je confonds les saisons. À profiter de toi. Loin des tubes de l'été, je prendrai mes vacances. Loin des plages à bronzer, je passerai.
Rire, idée, moins de bruit les filles.
Oui, alors j'étais en train de vous parler du CEARC. En fait, l'importance du CEARC, c'est qu'il intervient dans notre thématique, d'une part, et qu'en plus, c'est un organisme, en fait, c'est le Centre européen pour l'Arctique, très précisément, et il organise des conférences à Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est absolument génial. Et la prochaine conférence qui aura lieu au mois d'octobre, si vous voulez des précisions, vous allez sur le site ou sur le site de l'Université de Saint-Quentin, et vous trouverez des informations. Alors la prochaine conférence, c'est un projet en fait scientifique qui a été fait chez les éleveurs de rennes de Sibérie. Donc les éleveurs de rennes de Sibérie, dont Jérôme, tu vas me donner les noms.
Les nénettes, c'est les évinques, c'est évidemment.
Ah bah bien sûr, bien
évidemment.
Sûr. On connaît
j'ai pas triché,
que...
hein. J'ai pas triché. J'ai pas regardé sur internet.
Non, tu t'es juste renseigné, quoi.
Exactement.
C'est tout. Mais c'est un travail de journaliste, c'est tout, hein. Et alors, donc, chez les éleveurs de rennes, ils ont en fait confronté les observations entre les chercheurs et les autochtones, ce qui permet d'avoir une coproduction de savoir sur l'état du climat, l'état de ces populations qui vont être gravement impactées par le dérèglement climatique.
Il faut se méfier quand même de l'information qu'on peut recueillir comme ça. On a une perception, il y a une étude qui a été faite là-dessus aussi, très relative, très subjective du climat.
Ah oui.
Tu vois, l'année dernière a-t-il fait beau? Combien de temps a-t-il fait beau? Est-ce qu'il a vraiment fait froid? Quand tu confrontes ce que les gens ont en mémoire avec la réalité, les relevés de température, tout simplement, il y a souvent un écart important.
Voilà. Écoute, merci de nous le signaler.
On a la mémoire courte.
Faisons attention, mais n'empêche qu'il faut aller à cette conférence du CEARC, ça n'a rien à voir.
Bien sûr.
Tu me dis, on se méfie, on a de fausses informations. Eux, ils te donneront de vraies informations.
Il faut se méfier de ce que racontent les nénettes, c'est tout.
Les nénettes n'inventent rien. Bon, alors voilà. Et donc, je vais te laisser la parole, Jérôme, parce que tu nous as préparé un petit topo sur cette thématique douloureuse. Vas-y.
Oui, il faut vraiment le dire. Qui sont les vrais responsables du changement climatique?
Oui, il faut le dire. Il faut les dénoncer.
Et moi,
même.
Je dis « et toc au changement climatique », comme disent les climato-sceptiques. Voilà. Car pour eux, pas sûr que le réchauffement climatique, ou plutôt le changement climatique, soit dû au seul gaz à effet de serre émis par l'homme. Voilà, c'est la question qu'ils posent. Pour Trump, par exemple, ce serait peut-être un coup des Chinois voulant mettre un frein à l'expansion de l'économie
américaine. Ou les Coréens, non? Du Nord?
Ah, peut-être bien, tiens, pourquoi pas. Pour d'autres, le fonctionnement de l'atmosphère est une équation à beaucoup trop d'inconnus pour pouvoir donner une réponse. On ne connaît pas très bien, pour revenir à des choses sérieuses, la manière dont fonctionnent les échanges entre notre atmosphère et l'extra-atmosphère. Il y a une porosité...
L'extra-atmosphère
Oui, il y a des échanges entre l'atmosphère et ce qui se trouve au-dessus de l'atmosphère. Donc, atmosphère, tu as parlé d'atmosphère. Eh bien, tout cela disent... Toc au changement climatique et toc. Alors moi, pour trouver les vrais responsables, j'ai décidé d'être malin et d'employer la méthode, la bonne vieille méthode infaillible. Il suffit de regarder à qui profite le crime.
Bah exactement.
Et là, on trouve les responsables du changement climatique. Bonsoir Claire. Les responsables, ce sont donc les Bretons.
Ah les Bretons, ah bon, mais oui.
Les Bretons sont responsables. Car grâce au réchauffement climatique, la Bretagne, où il ne pleut jamais, bien sûr, hein, tout le monde le sait, sera demain la Côte d'Azur. Voilà. Cancale sera Saint-Tropez, sera Saint-Malo, sera Saint-Jean-Cap-Ferrat, et les Bretons vont troquer leurs bateaux de pêche contre des hors-bords et des rivas pour tirer les touristes faisant du ski nautique ou du wakeboard. Les marchands de phares et de kunyaman vont se mettre à la soca et les vendeurs de galettes au beurre salé vont troquer la bonne vieille bilic contre la machine à gelato, la glace italienne. Voilà, et on va boire l'anisette sans alcool, bien sûr, dans le vieux port de la Trinité-sur-Mer. Et sur les plages, les loueurs de matelas, de parasols, les marchands de crème solaire, de lunettes vont faire fortune. Voilà, les peuples du Sud vont envahir le bassin armoricain. Et les Bretons sont à la veille d'un boom économique sans précédent. Voilà. Le climat breton va devenir synonyme de parfaite douceur de vivre et les palmiers vont supplanter les pins parasols et on va festnoser sur des accents provençaux sous les platanes. Voilà pourquoi les Bretons disent toc au changement climatique. Et comme nous faisons de l'information locale, j'ai noté qu'il y avait d'autres responsables. Et oui, pas très loin, Chantal, comme nous faisons...
Tu me fais peur.
Eh oui, les Pugnéens, les habitants de Poigny-la-Forêt, baptisés la petite Sibérie. Et voilà, ça vous rappelle qu'il fait régulièrement 10 degrés de moins à Poigny-la-Forêt qu'à Paris, 2 degrés de moins qu'à Saint-Léger-en-Yvelines, et 3 degrés de moins qu'à Rambouillet. Nous faisons de l'information locale précise, avec 5 ou 6 degrés de plus, la petite Sibérie va devenir un oasis de verdure à température ambiante idéale, où les réfugiés climatiques du bassin parisien vont trouver refuge. Imaginez un petit peu plus loin les étangs de Hollande, la nouvelle plage de Pamplonne, hein, comme entre Ramatuelle et Saint-Tropez, et je pense que la future Brigitte Bardot sera là. Un boom économique sans précédent va booster Poigny au rang de villages les plus agréables de France, et toc, disent les Pugnéens, au changement climatique. Et bien sûr, il faut aussi ajouter, comme vous le disiez tout à l'heure, les Nets, les Events, avec leurs reines, les nomades de Sibérie, et les Inuits qui en ont ras-le-bol de se les geler. Voilà. Et aussi tous les marchands de clim, de congélateurs, de réfrigérateurs, de brumisateurs, de sorbetières, de sprays déodorants, importants, de produits frais, de boissons glacées, les vendeurs de piscines, les marchands de tongs, de maillots de bain, les marchands d'ombre, d'abris, parasols, couvreurs, les experts en isolation, les fabricants de sacs à glaçons, de fontaines, les inventeurs de réchauffement climatique. Non, monsieur Trump, ce ne sont pas les Chinois, mais bien tous ceux qui aiment jeter un froid ou un regard glacé, ceux qui ont du mal aussi à briser la glace. Tout cela dit stop au réchauffement climatique. C'est vous, Chantal.
Mais c'est magnifique, mais j'ai pas compris ce que faisait Brigitte Bardot dans cette histoire.
Bon, ben, Pamplonne,
la future Brigitte Bardot aux étangs de Hollande. La madrague sera au bord des étangs de Hollande.
Alors,
la future
moi,
madrague.
Je m'inquiète pour les fabricants de pulls marins. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, tu sais, les gros pulls à rayures et tout ça, mais bien chaud.
Ils iront en Angleterre.
Je pense qu'une reconversion s'impose.
Mais le réchauffement se fait par... tu vois, si en Angleterre, ça se réchauffe de 5-6 degrés, c'est pas très grave.
D'accord, tu vois, oui, c'est vrai.
On pourra encore mettre des pulls, surtout dans le Nord. Donc, c'est ça, enfin bon. Ah,
tu me remontes le moral, Claire.
Oui, je comprends.
Bonsoir, Claire.
Bonsoir.
Tu vas bien?
Oui, mais c'est trop technique pour moi.
Je sens que tu es contente de cette perspective de 5 ou 6 degrés de plus en Angleterre.
Non, oui, tout à fait, parce que j'ai entendu dire l'autre jour que les petites collines du sud de l'Angleterre commencent à se vendre très très cher, puisque bientôt on y fera du vin. Ce sera le nouveau Bordelais. Et donc,
les Champenois ont également investi dans des terres.
Tout à fait.
Car autrefois, il faut savoir qu'au Moyen-Âge, au début du Moyen-Âge, il y a eu une ère chaude. On pense que c'est dû à l'activité solaire à cette époque-là, c'était pas à l'industrialisation. Mmh. Et il y avait déjà de la vigne, on élevait le vin en Angleterre à l'époque, et finalement on va revenir à cette viticulture. Donc on réinvestit des terroirs et des vignobles. Ça se fait en Bourgogne, on remonte d'un cran, c'est-à-dire que on cultivait autrefois un petit peu plus en altitude, en Bourgogne. Car à l'époque où le climat était un peu plus chaud, on allait un peu plus haut pour avoir un peu plus de fraîcheur, et on y revient.
Voilà, d'accord. Donc il y a que des bonnes choses. Alors on a presque
que des bonnes choses
là. C'est parfait.
On va pouvoir se promener en maillot de bain à Poigny-la-Forêt.
Tu parlais de glace, de fontaines à eau et tout. On les remplit comment? Parce que l'eau, elle va quand même manquer, non?
C'est ça.
Comment tu remplis les fontaines à eau?
Ah oui, quand on n'aura plus de calotte glaciaire et plus de glaciers.
C'est ça. Tiens,
plus d'eau.
C'est ça qui m'inquiète un peu.
Oui, on mettra du coca.
Bah oui, tiens, c'est vrai.
On a toujours la même quantité d'eau dans l'atmosphère. Elle sera sous une forme liquide.
Oui, tu penses qu'on pourra transformer...
Bon, on va réfléchir à ça.
Bah oui, on va réfléchir.
On va vraiment réfléchir à ça.
Parce que les échanges, à mon avis, entre l'atmosphère et ce qu'il y a au-dessus, il y aura peut-être des petites pertes d'eau aussi, non? Je ne sais pas.
Non, mais on fera attention, on récoltera l'eau de pluie plus, avec plus de discernement, peut-être, non?
On va faire attention à tout, je crois. Il est temps, d'ailleurs.
Oui, il est temps. Il est temps de s'occuper de comment va... Alors, justement... Dans la troisième partie de cette émission, je voulais qu'on parle effectivement des moyens que nous avons, nous, Vulguspecom, de lutter contre le réchauffement climatique et le dérèglement, comme tu disais si bien, Jérôme. Parce qu'il y a des gestes très simples à faire dans notre quotidien. Alors, la première chose, effectivement, nous, à Poigner la Forêt, on va être embêté. Il faudrait moins utiliser notre voiture. Étant donné que nous sommes au centre d'une zone sans activité, ça va être compliqué. Mais il faudrait mieux aller en vélo.
Mais comment est produite cette électricité? D'où viennent les batteries? Quel est le bilan carbone de cette affaire?
Oui, alors il faut utiliser. Alors, ce que préconisent les scientifiques, c'est de faire de la marche, du vélo ou du roller.
Bah oui. Enfin, moi, je me vois pas trop aller au boulot le matin en vélo, mais bon, s'il faut le faire, je le ferai. Hein, enfin, je suis de bonne composition.
Ton travail est à 100 km.
En plus, il y a une pompe jusqu'à Rambouillet. T'as remarqué?
Oui, bien sûr. C'est vrai, oui. Mais après, le soir, pour rentrer.
Comme disait la Haute-Ceux, le chemin qui monte est aussi celui qui descend.
C'est ça. C'est exactement ça.
On en reparle dans deux minutes parce que maintenant on a une nouvelle coupure de publicité avec un titre qu'on connaît tous, c'est Gene Kelly qui nous chante Singing in the Rain.
Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feel, and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the storm clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. I'm happy again. I'm singing and dancing in.
J'étais en train de vous le dire avant cette jolie musique de Gene Kelly. Décidément, il est formidable ce garçon. Nous allons faire des efforts pour réduire notre pollution, en fait. Hein? Et on va commencer par les voitures. Donc, alors, vous êtes gentil, vous laissez tomber les 4x4, les grosses cylindrées. Hein? Et puis, vous allez prendre moins souvent la voiture et vous allez prendre des voitures qui consomment moins. Parce que, par exemple, la consommation de carburant engendre, par exemple, 35% des émissions de CO2. Pas mal, hein, quand même. C'est quand même. Et les véhicules particuliers sont responsables de 14% des émissions nationales, alors que les émissions françaises ont diminué de 0,8%. Les émissions dues aux véhicules particuliers ont augmenté de 17% entre 1990 et 2004.
Et en plus, c'est une voiture électrique, tu fais pas la queue à la pompe quand les Français paniquent et on sent que les dépôts sont bloqués.
Et en plus, tu payes pas trop ton électricité quand même quand tu vas faire le plein dans un parking où il y a une prise.
Oui.
Est-ce que tu payes?
Bonne question, je n'ai pas de voiture électrique, donc je n'ai pas de réponse.
Non, mais parce que je trouve ça super économique, quoi. Enfin, vraiment, il y a pas, et en, et en même temps.
Prise municipale ou.
Oui, quand même, en même temps, il n'y a pas de raison de, que ce soit
de
gratuit.
La gare à Rambouillet, qui non, paye.
Ben bah, oui, c'est ça, qui, tu vois, enfin, ce que je me dis, c'est que.
Est-ce
y a
que
quelqu'un
ça ressemble
qui paye
pas à du sponsoring par les municipalités, donc par les administrés, pour essayer de lancer le phénomène?
On va poser la question.
Sauf qu'une fois que tout le monde aura une voiture électrique, ça sera compliqué, enfin il faudra payer quoi, parce que l'électricité,
si tu fais le plein chez toi, tu payes.
Si tu fais le plein chez toi, mais enfin tu vois, si tu laisses ta voiture sur un parking, tu payes pas quoi. Ouais, j'aimerais bien savoir comment ça se passe.
Bah oui, écoutez, on va poser la question et on va répondre à cette question dans la prochaine émission.
Ça passe peut-être sur le budget lampadaire, éclairage urbain.
Sûrement. Bah non, mais bien sûr, c'est un budget global, mais je me dis que c'est quand même pas. Enfin,
c'est
pas
étrange.
Si...
Je sais pas comment ça fonctionne.
C'est une incitation à l'électrique. Mais
on va enquêter là-dessus.
Et pourtant, nous n'y sommes pas tous.
Alors, je voulais vous dire que pour les transports un peu plus loin que ceux de Poigny à Rambouillet ou Saint-Léger à Rambouillet, donc les transports nationaux, il faut de toute façon préférer le train à l'avion. Hein. Vous êtes tous d'accord là-dessus?
Tout à fait. Tout
pour ce qui est déplacement en France, hein. Bon, d'accord. On parle
cher le train aussi.
Oui, mais c'est plus. Parce que, tu vois, par exemple, le transport aérien, il a un double impact sur le climat. Non seulement le kérosène, bien évidemment, mais également des traînées de condensation qui augmentent la formation de nuages et contribuent aussi au réchauffement de la surface de la planète.
Je pense qu'il faut plus bouger, moi. Je pense qu'il faut rester
chez
soi. Ni le train, ni le
tairez-vous.
Oui, mais alors quand tu restes chez toi, n'oublie pas d'éteindre la lumière. Donc tu restes chez toi dans le noir la nuit, hein, de préférence, parce que l'électricité quand même.
Oui, donc tu vois la voiture électrique.
Ben oui. D'habitude, c'est très embêtant. Alors,
que peut-on faire d'autre, Chantal?
Alors, comme on l'avait très bien signalé dans l'émission de la semaine dernière, qui était le consommer local, ça aussi, c'est une chose importante.
Ah, je croyais que c'était les nobles. Vous avez vraiment.
Non, oui, c'est vrai. C'était les nobles, mais avant, on avait fait la consommation locale il y a 15 jours, excuse-moi.
Okay. Non.
Et c'est vrai qu'il faut consommer.
Mais les nobles consomment local, c'est pour
ça. Oui, c'est ça.
Bah, pas toujours, ils n'ont pas toujours les sous.
Il faut acheter des produits plus respectueux. Alors, le produit respectueux, si vous voulez, il doit être fait dans des produits locaux. Et puis, les fruits et les légumes, par exemple, arrêtez de manger des avocats et des
cerises.
Mais, on veut bien arrêter, mais si tu trouves que ça, tu vois.
Tu trouves que des mangues et des avocats quand tu vas sur le marché, toi?
Non, je trouve pas que ça. Mais n'empêche que c'est un produit qui est proposé.
Oui, mais enfin, c'est à toi de décider.
Non, donc, parce que après, c'est une question de budget. Enfin, si tu vas dans un magasin de légumes à Rambouillet, tu trouves que de l'espagnol. Il vient pas, la pomme, elle vient pas de l'Eure-et-Loire.
La question, c'est faut-il boycotter les produits qui ont un bilan carbone très négatif?
Moi, je trouve que oui.
Oui, moi, je suis tout à fait d'accord.
Moi, je boycotte.
Et par exemple, il faut prendre des produits.
Tu trouves pas qu'on devrait avoir un étiquetage? Ça existe peut-être déjà. Non, ça existe pas.
Ils sont en train d'en parler.
Bilan carbone.
Voilà. Ah non, je crois qu'ils sont en train
déjà quand ça vient d'un peu loin, tu sais que le bilan il est mauvais quoi.
Ouais, bah oui.
Mais si tu le vois écrit, c'est encore plus parlant, non?
Absolument. Mais en plus, alors non seulement il faut, enfin, tu sais déjà à l'origine que l'avocat il vient pas de chez nous et que la mangue non plus.
Bah donc il faut plus manger de mangue, plus d'avocat.
Non, mais ça vient de très loin. Alors tu peux le faire de temps en temps, mais ça vient plutôt du Chili. L'autre jour, il y avait dans une grande surface des avocats. Ils venaient du Chili. Voilà.
Ça peut venir de chez vous, l'avocat.
Bio.
Il y a des avocats aux Antilles. Hein.
Oui, enfin bon,
oui, mais enfin, les Antilles, c'est loin,
c'est
quoi. C'est chez nous,
puis en ce moment, il y en a moins.
Tu vois.
Et non, il y en a en Corse, hein, des avocats.
Ah oui?
Voilà.
Moi, j'en ai vu des des armes magnifiques avec
des
avocats.
Mais pourquoi on n'a pas des avocats de Corse?
Alors, cette année, il n'y en aura sûrement pas parce que. Parce qu'il n'y avait pas d'eau. Parce qu'il n'y avait pas d'eau et les avocats étaient gros comme des noix. C'est incroyable.
Aïe. C'est moche.
Ah ouais, c'est moche.
Pour l'apéro, ça peut être sympa, l'avocat noir.
Oui, c'est sûr.
Et la mangue, par contre, ben voilà, ça vient de trop loin. On les cultive pas en France, donc il faut prendre.
Donc il faut plus en manger alors.
Il faut de préférence de préférence. On va pas faire des règles dictatoriales. Il faut de préférence prendre des fruits et des légumes qui sont cultivés localement et qui sont de saison. Parce que là, on a pris l'habitude aussi de manger des cerises au mois de décembre et des abricots au mois de février.
On mange quoi ? Des mûres, des framboises d'automne.
Des mûres, des framboises,
des pommes, des poires.
Des poires.
Bon, y a plein de trucs quand même. Mmh. Excuse-moi. Donc non, on a
des noix.
Oui, c'est la saison des noix aussi. Enfin voilà. Donc ça c'est important. Il faut absolument dans ta maison dont tu vas plus bouger, Claire, tu fasses une isolation performante.
C'est fait. Oh,
Chantal, c'est bien isolé chez toi.
Non, pas du tout. Alors chez moi, bah oui, mais il faut que je, oui,
il faut que je respire. Hein.
Voilà, c'est ça. Mais en plus, en même temps, il paraît qu'il faut ouvrir sa maison parce qu'elle est moins polluée par ce qui vient de l'extérieur que ce qui vient de l'intérieur. Donc, ma maison,
il faut entendre les oiseaux, sinon t'entends rien quand t'as une maison trop isolée. Ah, oui.
T'es dans un aquarium.
Oui, tu n'entends plus les bruits extérieurs, donc surtout les oiseaux. Enfin, c'est quand même terrible, quoi.
Bon, enfin bref, comme vous deux, vous avez des maisons bien isolées, vous êtes de bons élèves parce que la bonne isolation thermique permet de baisser substantiellement la facture d'électricité, évidemment, ou de chauffage, et ça offre un meilleur confort. Quoi. T'es dans une maison qui est pas humide.
Et de quel bois faut-il se chauffer ?
C'est une très bonne question. Eh ben, le bois.
Électricité, fuel, gaz.
Alors, attends, je vais te dire, il est préférable d'utiliser des modes de chauffage écologiques en remplacement des modes traditionnels. Un large choix de chauffage respectueux de l'environnement.
Les poêles à
granulés solaires. Bah non, le chauffe-eau solaire, la géothermie, évidemment, ou le chauffage à bois. Effectivement.
Le bois.
Ben oui, le bois.
Il n'est pas question d'interdire les cheminées. Ah, les cheminées à foyer ouvert, c'est ça. Oui. Les cheminées à foyer
mais
ouvert.
Mais pas chez. Oui, enfin bon.
Si. C'est normalement, c'est.
C'est prévu.
Alors, il faut savoir quand même que le chauffage est le premier poste de consommation dans l'habitat. Quoique maintenant, comme ça va être Saint-Tropez, peut-être qu'on aura moins besoin de chauffage.
Exactement.
C'est ce que tu vas dire, Jérôme.
Eh oui.
En tout cas, pour l'instant, ça représente plus de 2/3 des consommations d'énergie domestique, hein, quand même. Cependant, voilà, ça peut s'arranger. Enfin bref, il faut faire gaffe.
Moi, je veux bien tout faire bien comme il faut. Sauf qu'il y a quand même des gros pollueurs qui sont industriels, les déplacements en camion et tout. Et nous, c'est toujours nous qui prenons, c'est-à-dire les petits qui sont chez eux et tout, alors qu'il y a des gros pollueurs qui ne sont quand même jamais punis, à qui on ne dit pas il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Enfin, ça devrait être même une loi qui est faite.
Ah, mais il y a des lois maintenant pour certaines industries où on les empêche de polluer, ils se sont mis d'accord.
Dès qu'il y a eu la loi, je sais plus comment, les portiques là qui devaient normalement sanctionner les camions, les faire payer, tout de suite il y a la grève, il y a plus de... Donc c'est quand même compliqué, quoi. Et finalement c'est toujours le petit consommateur qui doit isoler sa maison, mettre des fenêtres machin, mettre des trucs bidules qui ne sont plus aux normes l'année d'après. Il faut encore, enfin c'est quand même un petit peu tu vois, c'est quand même toujours un petit peu le petit consommateur qui est puni et jamais les gros qui sont quand même les...
Enfin, le gros, il t'apporte ton avocat dans ton assiette.
Eh ben, moi, je veux plus manger d'avocat. Non. Elle a dit, Chantal, il faut plus en manger. Alors, moi, je n'en mange plus.
Pourtant, c'est bon, non, les avocats.
Le gros, oui, d'accord, mais il y a sûrement d'autres façons de transporter que par camion.
Tu te souviens de ce documentaire sur le réchauffement climatique où on voyait des pommes de terre qui descendaient d'Allemagne en Italie pour se faire découper en frites et qui remontait surgelé en Allemagne.
Ah oui.
Donc ça, c'est un bel exemple de bilan carbone très négatif. La même pomme de terre qui faisait la guerre.
Non, mais je pense quand même, enfin, parce que moi je suis optimiste de nature, je me dis que si moi, consommatrice, je commence à faire attention à ce que j'achète, à ce que je mange, à ce que je consomme, bah, ça va faire un effet boule de neige, non?
Oui, tout à fait, mais faut éduquer, hein. Donc l'école est
de faire. Méfie-toi de l'effet boule de neige en temps de réchauffement climatique.
Oui.
Il est à courte durée.
Oui, méfie-toi. Ouais. Ton bonhomme de neige.
Bon, d'accord. Oui, parce qu'il n'y aura plus de neige.
Il n'y aura plus que les carottes. Et je crois que vous vouliez parler des carottes.
Oui, absolument. Alors Jérôme, tiens, énormément.
Mais tu me faisais penser, les glaciers aussi vont devenir des denrées rares. Je pense qu'il va y avoir un tourisme pour aller voir la mort des glaciers. Non, tu crois pas qu'on va assister à ça?
Si, mais bon, en même temps, c'est pas tout de suite. Mais autant prévenir, je pense.
Il faut quand même rappeler que la carotte a fait faire un pas en avant à l'étude du climat.
Ah bon? Ah, la carotte glacière.
La carotte glacière.
Celle que tu plantes dans le...
Celle que l'on doit à monsieur Lorieux, je crois bien, dans les années 50. Donc, parce que, pourquoi on carotte la glace? Donc, aujourd'hui, on est capable de sortir des carottes qui font, je sais plus, un kilomètre de long.
Pour voir comment ça se passe.
Parce que la glace,
la glace, c'est une mémoire.
Bien sûr.
Ouais, c'est ça.
On a retrouvé des microbes, des micro-organismes et tout ça qui datent
l'air. On retrouve des molécules d'air, des molécules d'oxygène. Donc, suivant le type de molécules que l'on retrouve, le nombre, la densité de molécules, on sait s'il a fait plus chaud, plus froid. Et, on fait aussi des carottes de sédiments.
Tu vas nous en parler tout de suite.
Mais sauf que ça veut dire que si la calotte glaciaire fond, nous perdons toute cette histoire.
Les sédiments. Et voilà.
Taisez-vous.
Et voilà, on perd tout. Si on perd la calotte, on perd
on
la
perd
mémoire.
Tout.
Attendez,
exactement.
En tout temps, en
calotte,
attendant.
Plus de mémoire, car la calotte couvre, chef.
Mais je rêve, ils veulent pas s'arrêter. Alors que c'est la pub et que en plus, après, on aura Bonnie M qui va nous chanter Sunny. Ça.
Dis donc, tu as quelque chose de prévu mardi?
Ben non, pourquoi?
Mardi, c'est mon jour shopping au Bel Air.
Ah bon?
Oui, tous les mardis, tu peux gagner le remboursement de tes achats dans les boutiques du centre commercial et au Carrefour.
Pas mal du tout, ça. Ça vaut la peine de changer le jour de ses courses. Et comment ça marche?
Ben viens, je t'emmène et je t'expliquerai en route.
De gagnant chaque mardi sur tirage au sort. Détail de l'opération dans votre centre commercial Bel Air, route nationale 10, Rambouillet. RVE.
Yeah.
Rire, idées, moins de bruit les filles. C'est chaque lundi, 19h-20h, sur RVE.
Alors, grâce à Bonne AM, on vous a donné un avant-goût de ce qu'on écoutera sur la plage de Poigny-la-Forêt. Tu sais qu'il y aura une mer à 25 degrés.
Bah, viendra d'où la mer ?
Claire, on n'est pas bien situé à Poigny-la-Forêt ?
Si, on est très très bien. On est...
Bah oui.
Le sable.
Il y a.
Il arrive là.
Il est.
Non, mais l'épaule du réchauffement climatique, le sable.
Nous, on est parfaitement bien.
Ce sera la plage.
Oui, mais puis il y a la rivière. Ouais. Moi, j'ai la rivière dans mon jardin.
On a l'eau.
Avec le sable.
La rivière. Formidable.
Quand j'aurais plus qu'à faire des frites et du coca.
Génial. Alors, justement, quand tu feras des frites et du coca, tu penseras à trier tes déchets. Parce que ça, c'est encore une des choses qu'on te conseille sur, pour éviter justement trop de pollution. Alors, voilà. Le tri des déchets ménager permet de limiter la quantité d'ordures, évidemment, mise en décharge et de favoriser le recyclage. Verre, papier, carton. Ah, bah si, moi je fais un tri.
Oui, du favorise verre, le recyclage, d'accord. Mais
oui, c'est ça. Bah oui, donc on ne dit pas non.
Mais si, parce que moins t'as d'ordures à trier, moins.
C'est pas parce que tu n'as pas moins d'ordures, mais elles sont triées.
Ah, oui,
donc,
elles sont triées. Ouais. Donc ça fait moins d'encombrement en bout de chaîne, si tu veux. Voilà, c'est ce que...
Il y a moins de choses à brûler,
non,
peut-être.
Tout dépend. La grande question, c'est que recycle-t-on, finalement ?
Le tissu, le carton, le verre.
Si tu tries, s'il n'y a pas recyclage derrière, ça ne sert à rien.
Ah ben non ! Parce que, après, ce qui est incinéré, ce qui n'est pas recyclable, c'est incinéré. Et alors, l'incinération avec valorisation énergétique émet 4 fois moins de gaz à effet de serre que la mise en décharge.
Donc, il faut dire quand même qu'il y a deux philosophies dans le tri des déchets. Il y a la philosophie française où on trie assez peu de choses. Je sais pas combien tu as de poubelles chez toi. Moi, j'en ai trois. Le verre.
Quatre, parce que tu peux avoir le compost.
Oui.
Donc, allez, quatre avec le compost.
Trois.
Ok, Claire.
Trois,
effectivement, sans compost, c'est-à-dire le verre, le tournant, et puis ce qu'on appelle le tri sélectif.
Voilà.
Où on met nos cartons, nos bouteilles en plastique,
donc,
nos canettes, etc. Voilà. Ça veut dire que, en fait, le tri n'est pas vraiment fait parce qu'on nous, on met les cartons, les bouteilles de lait, les bouteilles en plastique, les canettes, tout ça dans la même poubelle. Alors que dans certains pays comme l'Allemagne, l'Autriche, on sépare et là-bas, on a jusqu'à 7 ou 8 poubelles différentes. Simplement, le travail de tri n'est pas fait au même endroit chez eux. Il est fait chez l'habitant.
D'accord.
Et chez nous, il est fait en aval à l'usine. Voilà. Donc, on fait un premier tri grossier et ensuite, des machines, en général automatisées, vont séparer les bouteilles de lait qui vont aller d'un côté.
Machine ou humain, non ?
Ou humain. C'est-à-dire la machine est relayée, secondée par l'humain. En général, aujourd'hui, ça se passe comme ça pour les endroits les plus modernisés.
D'accord. Voilà.
Mais ce qui compte, effectivement, comme tu le disais, c'est que ce soit recyclé au bout du compte.
Absolument.
Oui, c'est ça.
Donc, il y a un dernier conseil qui est donné pour une meilleure planète, c'est réduire sa consommation d'eau. Par exemple, éteindre le robinet entre deux utilisations, parce que de temps en temps...
Pas se brosser les dents en laissant l'eau couler.
Voilà, ça. Bon, et puis, en réutilisant l'eau pour les légumes, pour arroser les plantes à l'extérieur de ton jardin, par exemple.
Ben, ce soir, on va moins avoir besoin de l'arroser, je crois.
Et tu sais que la quantité d'eau dans l'atmosphère est la même depuis des millions d'années, hein.
Il faut
on boit toujours la même eau depuis des millions d'années, simplement elle se balade dans
l'atmosphère. Il faut entretenir aussi régulièrement la robinetterie. Pour éviter les fuites et tous les bouchons, les trucs, machin, qui font qu'après tu fais couler plein d'eau pour que ça se débouche. Enfin, bref.
Mais bon, en même temps, l'eau qui fuit, elle va dans la terre, donc elle retombe dans les nappes où j'imagine que c'est recyclé aussi, non ?
Ben oui. Oui, tout à fait. Mais en tout cas, voilà. Donc, l'eau aussi, faites attention. Et puis, alors, ce que je voulais vous dire, c'est que semaine prochaine, nous allons avoir une émission. C'est nouveau. On commence à annoncer une semaine à l'avance pour que tout le monde soit prêt à 19h la semaine prochaine pour écouter une émission spéciale poule.
D'accord. Avec des invités. Spécialistes de la poule.
Voilà, spécialistes de la poule. La poule
aider la saumure.
Je vous promets de pousser un cocorico et nous aurons des invités. Mais on ne peut pas terminer, Chantal, sur le climat sans parler en France d'Emmanuel Leroy-Ladurie.
Oui.
Ce grand historien qui a étudié le climat depuis l'an 1000, grâce, et plus précisément à partir du 15e siècle, au carnet et aux notes de dates de vendanges. Tu sais qu'à partir des dates des vendanges, il a pu analyser les années chaudes, les années froides, etc.
Et récemment, notre grand
historien, membre du Collège de France, citait Platon et il disait que pour Platon, il y avait un respect entre l'homme et la planète. Et ce respect aujourd'hui n'existerait plus du fait de l'industrialisation.
Mais on va y revenir.
Voilà.
Oui. Voilà. Non, mais tu as raison. On va y revenir.
Un lien serait rompu, nous allons le rétablir.
Voilà, c'est ça, exactement. Rétablissons le lien.
Et les poules sont très écologiques car elles mangent nos détritus. C'est pour ça que nous allons en parler la semaine prochaine. C'est tout à fait lié au changement climatique, la poule.
Tout à fait.
D'accord. Bon, alors maintenant, eh bien, écoutez, c'est terminé. Au revoir Claire et merci d'être venue.
Qui fait l'œuf, qui fait la poule. Au revoir Chantal.
RVE, bon appétit. Il est midi.
Le point sur l'actualité nationale.